Come on, who can talk to?
Monsieur Nicolas Mayville.
I can offer you my spot if you want. You sure?
Je peux vous donner ma place si vous voulez. C'est sûr?
Nicolas Mayville, je suis porte-parole de Greenpeace au Québec, responsable de la campagne forêt et biologiste. It's a pleasure to be here today.
C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Tout d'abord, je vous remercie de votre exposé. Je suis sûr que vous avez travaillé très fort sur ce projet. C'est assez impressionnant. Il y a beaucoup d'informations, de renseignements, donc c'est très utile ce que vous nous avez présenté. Je vous en remercie. J'aurai trois questions et après le souper, j'aurai une présentation à faire. Donc, je vais tenter d'être bref pour l'instant, mais comme vous le savez, Greenpeace travaille sur ce dossier depuis très longtemps. Je suis très passionnée du sujet. Je suis très heureux d'être ici et d'entendre les réponses du comité, avoir plus d'informations. J'aurai une première question au sujet de la proposition elle-même. Comme vous savez, donc du projet, comme vous savez, l'écrit de Waswanipi, on fait une proposition au gouvernement du Québec en 2011 d'avoir une aire protégée, Michikemish. Donc, cette aire, demandait que cette aire soit protégée pour les générations futures. 62 des territoires de trappe, donc 59 des 62 territoires de piégeage ont déjà été touchés par des activités forestières. Comme vous le savez, il y en a seulement 3 territoires qui sont intacts et il y avait un souhait très clair de la part de la communauté de voir protéger ces territoires. À la suite de cette proposition, d'autres communautés ont fait des propositions très claires au gouvernement pour étendre la protection. La comité Nemeska, Ojibogumu aussi, pour ce qui est du parc Assinika. Ces propositions ont été réunies entre un plan de conservation du bassin versant de la Broadback. Donc, ça représente 13 000 kilomètres carrés. Donc, ma question est fort simple. Pourquoi, malgré toutes ces propositions officielles qui ont été reconnues par le gouvernement et aussi par la population, il y a eu beaucoup d'attention des médias attirée sur ce sujet, pourquoi proposer une route qui traverse directement en plein milieu de l'aire protégée qui est proposée?
Sur la diapo qu'on voit affichée en vert, on voit la proposition, la demande d'air protégé de Waswanipi et on voit les localisations de caribous. On considérait, étant donné qu'on avait fait le compromis de réduire d'une assez bonne partie, comme on l'a vu dans la présentation, la longueur des chemins en projet, on considérait comme un compromis honorable de faire la proposition suivante, étant donné que les territoires qu'on proposait de donner accès étaient très peu fréquentés par le caribou, comme la montre la diapo, et que la proposition d'air protégé de Waswanipi était couverte à très fort pourcentage. Fait qu'on avait considéré notre projet comme un compromis correct.
Donc, j'ai posé une question subséquente à la réponse, si je peux me permettre. Est-ce que le compromis d'avoir eu, au cours des années, 59 des 62 aires de trappe déjà impactées, est-ce que c'est pas là le compromis qui a déjà été fait par la communauté? Est-ce que d'augmenter la proportion devient pas un peu justement un peu biaisé? Le compromis peut-être pas nécessairement... Vous Vous comprenez ma question? Oui?
Oui. Je comprends très bien la question. Même en protégeant intégralement la demande de la communauté de Waswanipi, les aires de trappe qui sont touchées dans notre demande le seraient quand même en acceptant de protéger le 100% de la demande d'aires protégées. Ça ne ferait pas en sorte qu'il y aurait des aires de trappe qui seraient complètement intactes non plus. Donc, il y aurait 59 aires de trappe de toucher sur les 60 quand même. On aurait des parties d'aires de trappe qui seraient un peu plus grandes, qui seraient protégées. Est-ce qu'il y a un compromis à faire entre ce qu'on a d'affiché là? Oui, probablement.
Deuxième petite question. I'd like to refer to table 2.2.
Le tableau 2.2 du rapport, donc la réponse que vous avez donnée.
Donc, page 7.
Des réponses aux questions du COMEX?
Oui, je m'excuse. Le titre exact.
Reference that he's making on a document that was published on the web.
Ça, c'est quelque chose qui a été publié sur le site web du COMEX. Oui, les réponses aux questions du comité. Donc, pour sondage de volume de bois qui ont été attribués aux différentes compagnies, le régime est différent, nous le savons. Il s'agissait de 86-55, c'est plus le cas. C'est une zone plus grande que cette UAF, donc il y a des pourcentages pour chaque compagnie qui propose ce projet. Donc, elles doivent recevoir plus de 100 000 mètres cubes pour matériaux blanchés, séries landriennes, produits ferroviaires résolus, Tembec. Donc, on voit les pourcentages pour chaque compagnie. Mais dans votre première réponse, vous parlez d'une aire 13 000 hectares qui seraient récoltés. Donc, ces routes ouvriraient une zone de 13 000 hectares. C'est quelle compagnie qui va obtenir ces volumes de bois? Donc, c'est plutôt 113 000 hectares. Donc, non pas les volumes de bois pour toute la région, mais les volumes de bois auxquels on aura accès grâce à ces deux routes. Quel est le pourcentage pour chaque compagnie?
Après avoir reçu la planification des gens du ministère Forêt, Faune et Parc, l'ensemble des bénéficiaires que vous voyez là s'assoit à une table pour se distribuer le volume qui leur a été alloué. Fait que je ne peux pas vous dire aujourd'hui qui va récolter quel bloc ou quel volume dans le secteur qu'on a de l'intérêt cet après-midi, mais il est fort probable que l'ensemble des compagnies que vous voyez là vont intervenir sur le secteur.
Les plans qui sont présentés dans le document, déjà, j'imagine, les compagnies savent quel bloc, non? Personne ne sait ça?
Non, okay. Ça se fait de façon annuelle. Pour l'année qu'on est en cours, mettons l'année 15-16, il n'y a pas de récolte qui est autorisée sur les secteurs. On est en train d'essayer d'avancer le projet. Par exemple, si en 2016-17, qui est l'an prochain, il y aurait des blocs qui seraient distribué entre l'ensemble de ces compagnies-là, c'est à ce moment-là qu'on saurait qui récolte.
OK. As you know, three environmental groups sent letters.
Comme vous savez, trois groupes environnementaux vous ont fait parvenir des lettres, donc des lettres aux compagnies forestières, NRDC des États-Unis, Greenpeace et Canopy. Donc, c'est gros vous ont demandé de vous engager à respecter les aires protégées proposées par Waswanipi. Pour l'instant, on n'a reçu qu'une réponse de Tembec indiquant qu'il n'y aurait aucune récolte, donc, de la part de Tembec dans cette aire protégée. Il y a une autre compagnie qui est disposée à dire publiquement qu'elle va respecter l'aire protégée proposée par Waswanipi.
Compagnie, je vais parler pour matériaux blanchettes. Nous, on pense qu'il va y avoir un compromis à déterminer entre la communauté de Waswanipi et l'ensemble des entreprises qui va probablement être entre ce qu'on voit d'affiché et ce qu'on demande. Puis à ce moment-là, lorsqu'il y aura un compromis entre les deux parties, là, on pourra garantir aux gens qui le demanderont qu'on va respecter ce qu'on aura décidé comme compromis.
Est-ce que les gens de Résolu, Cyril-Andrienne ou d'autres peuvent se prononcer là-dessus?
Pour notre part, pour produits forestiers résolus, nous, on va aller seulement où ce qu'on va avoir les autorisations gouvernementales pour aller faire des opérations.
Donc, il n'y a pas d'engagement à respecter la proposition de la protéger de Waswanipi?
On va aller où ce qu'on va être autorisé d'aller seulement.
Est-ce qu'il y a d'autres?
Nous aussi, on va aller juste là où on peut aller, mais à partir du moment où l'air protégé, projeté de Waswanipi sera comme fixé et déterminé, on la respectera, c'est sûr. Mm-hmm. Mais en attendant, on est loin de... T'sais, avant qu'on se rende là avec nos opérations, il va se passer des années, là. Fait que j'imagine qu'à ce moment-là, ça va être déjà... On va déjà savoir à quoi s'en tenir avec les limites de cette aire protégée projetée là.
OK. Et ma dernière question, c'est par rapport au caribou. I'm a bit confused how you.
J'ai un peu de confusion dans mon esprit. Vous avez modifié votre aire d'étude pour ce qui est des activités forestières et de l'habitat du caribou. Vous avez expliqué que ce projet vous permettrait de récolter 113 000 hectares de forêt. Et ensuite, quand vous vous penchez sur l'impact du projet en tant que tel, vous vous intéressez à un territoire beaucoup plus vaste. Donc, ça réduit de beaucoup le pourcentage de perturbations. Donc, ce serait intéressant pour tous de savoir exactement quel est le taux de perturbation qui se produira dans ce territoire. Combien d'habitats de caribous seront touchés dans le secteur du projet? Non pas en tenant compte des aires protégées au nord ou des grands lacs comme le lac Evans ou d'autres zones où il n'y a aucune activité forestière. On parle ici de la zone où vous prévoyez récolter, donc c'est 113 000 hectares de forêt. Quel sera le taux de perturbation et quel état sera l'habitat de caribou après cette récolte? Eh bien, il ne m'est pas possible de répondre à cette question. Quand vous demandez quel est le pourcentage de perturbation dans le secteur protégé, je ne sais pas. Le secteur a été validé par deux experts différents du MFP. Nous savons que ça représente 10 000 km². Ça a été validé par deux experts du ministère. Donc, pour nous, cette approche était tout à fait appropriée. Très bien, c'est intéressant. Je sais que M. Broder et j'oublie le nom de l'autre personne ont réalisé cette étude sur le caribou forestier sur un territoire beaucoup plus vaste. Mais la question que je pose, et je pense que cela intéressera toutes les personnes présentes, pour ce qui est du projet en tant que tel, le secteur du projet, quel sera le taux de perturbation? Parce que vous parlez de deux routes, mais ensuite vous dites ce ne sont pas deux routes, ce sont en fait 100 000 hectares qui seront récoltés et en fait ces routes sont des routes d'accès à la récolte et ensuite on donne l'argument économique de la création d'emplois. Mais pourquoi ne mentionne-t-on pas aussi les répercussions pour le caribou qui vit dans ce secteur de 113 000 hectares? Parce que l'habitat du caribou n'est pas limité à ce secteur. L'habitat du caribou est beaucoup plus vaste, c'est la raison. Donc, l'activité forestière n'est pas non plus limitée à ce petit secteur. Il y a aussi beaucoup d'activités forestières au sud. 90% de la province du Québec a été touchée par l'activité forestière. Donc, pourquoi se tourner maintenant vers les 10% qui restent? Oui, justement, nous réalisons ce genre d'activité forestière depuis tellement longtemps. On prévoit une pénurie de bois en fonction du plan de gestion actuel. Voilà pourquoi on prévoit cette exploitation forestière dans ce secteur. Voilà pourquoi il faut accepter un compromis. C'est ça la solution.
All right, thank you.
Très bien, merci.
Merci, Monsieur Mainville. Mary Cooper?